Bonjour et bienvenue aux lecteurs sous les toits. Aujourd'hui, nous serons 7 à vous présenter des livres. Il y aura Nicole qui vous présentera Incendie, une pièce de théâtre de Wajdi Mouad. Puis Robert vous présentera Otage intime de Jeanne Benhammer. Ensuite, nous aurons Blanca qui nous présentera J'ai tant rêvé de toi d'Olivier et Patrick Poivre d'Arvor. Puis Nelly avec toutes les familles d'Andrea Bajani. Jean-Loup de Haute lutte de Hambaï. Alphonsine Balzac et la petite tailleuse chinoise de Daiji. Sylvie la cote 400 de Sophie Divry. Et enfin Robert qui terminera avec le charme discret des intestins. Qui va nous présenter Incendie.
Alors, il s'agit d'une pièce de théâtre de Wajdi Mouad, publiée par Actes Sud, collection Babel. Je voudrais commencer par citer deux phrases très significatives. L'enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Et puis aussi cette autre phrase, l'amitié des femmes, comme une étoile dans le ciel. L'histoire est tragique et tout à fait horrible. Elle est d'ailleurs inspirée de faits réels, ce qui rend l'histoire encore plus horrible. Quelque part au Canada, deux jumeaux, Jeanne et Simon, assistent à la lecture du testament de leur mère par le notaire Hermile Lebel, ami de la famille. Leur mère leur transmet à chacun une enveloppe et aussi à Jeanne une veste portant au dos le numéro 72. Jeanne doit retrouver leur père et lui remettre son enveloppe. Simon doit retrouver leur frère et lui remettre son enveloppe. Stupéfaction des jumeaux qui croyaient que leur père était mort et qui ignoraient l'existence de leur frère. Simon se met dans une colère folle, refuse tout net cette mission. Jeanne reste muette. Dans un premier temps, chacun se replonge dans ses activités habituelles. Simon, ses entraînements de boxe. Jeanne, ses cours de mathématiques à la faculté. Elle est professeure de mathématiques. Puis, alors que Simon s'enferme dans son refus, Jeanne se lance dans cette folle aventure et part pour ce pays lointain, jamais nommé, qui est sûrement le Liban, dont Wajdi Mouad est d'ailleurs originaire, et qui est le berceau de la famille de Jeanne et Simon. Elle y fait une série de découvertes de plus en plus stupéfiantes et elle les expose par téléphone à son frère, qui finalement accepte de la rejoindre en compagnie du fidèle Hermile Lebel, c'est d'ailleurs un personnage tout à fait intéressant, parce qu'il est à la fois le confident du théâtre classique et aussi le cœur antique de la tragédie grecque. D'ailleurs, cette pièce contient des allusions évidentes à une légende de la mythologie grecque. On peut même dire que c'est le renouvellement d'un mythe antique. Et en parallèle à cette quête, l'auteur nous montre par une série de flashbacks une autre quête qui se déroule bien des années auparavant, celle de Nawal, mère de Jeanne et Simon, qui a été contrainte par sa propre mère d'abandonner son fils, donc leur frère, qu'elle cherche dans ce pays dévasté par la guerre et qui est donc certainement le Liban. Alors, il faut préciser que cet enfant a été conçu hors mariage, que le père de cet enfant est mort peu de temps après, et que donc c'est la honte pour la famille. Donc, Jeanne est contrainte d'abandonner cet enfant. Alors, je voudrais te dire un petit mot des flashbacks, puisque je viens d'en parler un petit peu. À propos donc de ces flashbacks, la construction de la pièce est très intéressante. Parce que grâce à ces flashbacks, le passé et le présent se fondent. Parfois, comme si le passé était du présent, en fait. Mais ça, tout reste très, très compréhensible et très clair. Donc, Jeanne et Simon vont continuer leur recherche. Je ne dis rien du dénouement. Alors, cette pièce est particulièrement intéressante par les différents thèmes qui s'entrevêchent, étroitement liés aux uns aux autres. le thème de la guerre, évidemment. C'est d'ailleurs un plaidoyer contre la guerre et la folie des hommes. Je pourrais d'ailleurs lire un petit extrait. La quête de soi, bien sûr. La recherche de l'identité. J'ai particulièrement apprécié le rôle étrange des mathématiques. C'est tout à fait extraordinaire, c'est tout à fait pertinent dans la pièce. J'ai beaucoup aimé aussi la solidarité entre les femmes, comme je me réfère à la première citation, l'amitié des femmes comme une étoile dans le ciel. La solidarité par la transmission entre la grand-mère de Nawal et Nawal, et puis l'amitié qui va lier très fortement Nawal et son amie Saouda, bien sûr. Saouda est un personnage très important de la pièce. Elle pose aussi des questions. Cette pièce, comment ces deux femmes, Nawal et Saouda, qui sont deux femmes profondément bonnes, intelligentes, sensibles, comment donc ces femmes vont-elles avoir recours à la violence? Alors, pour la guerre, je peux lire un extrait. Je commençais par la guerre. Il y a deux jours, les miliciens ont pendu trois adolescents réfugiés qui se sont aventurés en dehors des camps. Pourquoi les miliciens ont-ils pendu les trois adolescents? Parce que deux réfugiés du camp avaient violé et tué une fille du village de Kfar Samira. Pourquoi ces deux types ont-ils violé cette fille? Parce que les miliciens avaient lapidé une famille de réfugiés. Pourquoi les miliciens l'ont-ils lapidé? Parce que les réfugiés avaient brûlé une maison près de la colline du Thym, etc. etc. Pourquoi, hein? Il y a certainement une raison. Ma mémoire s'arrête là. Je ne peux pas monter plus haut. Mais l'histoire peut se poursuivre encore longtemps. De fil en aiguille, de colère en colère, de peine en tristesse, de viol en meurtre, jusqu'au début du monde. Pour la solidarité entre les femmes, au cours d'un flashback, la grand-mère de Nawal, Nazira, qui se meurt, s'adresse ainsi à sa petite-fille, qui sera donc plus tard la mère de Jeanne et Simon. « Prends-moi la main, Nawal. Nawal, il y a des choses que l'on a envie de dire au moment de la mort, des choses que l'on aimerait dire aux gens que l'on a aimés, qui nous ont aimés, leur dire, pour les aider une dernière fois, les armer pour le bonheur. Voilà un an, un enfant est sorti de ton ventre, et depuis tu marches la tête dans les nuages. Ne tombe pas, Nawal, ne dis pas oui, dis non, refuse. Ton amour est parti, ton enfant est parti. Il a eu un an, il y a quelques jours seulement. N'accepte pas, Nawal, n'accepte jamais. Mais pour pouvoir refuser, il faut savoir parler. Alors, arme-toi de courage et travaille bien. Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir a à te dire. Apprends à lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends à parler. Apprends. C'est ta seule chance de ne pas nous ressembler. Promets-le-moi. Et en effet, Nawal va apprendre et respectera les volontés de Nazira. Plus tard, Saouda demandera à Nawal de lui apprendre à elle aussi à lire, écrire, compter. Ce qui nous permet, dans une très belle scène, d'entendre l'alphabet Alep, Bé, Ta, Za, etc. Et Nawal explique à Saouda, « Il y a 29 sons, 29 lettres. Ce sont tes munitions, tes cartouches. Tu dois toujours les connaître. » Quelles que soient les horreurs vécues ou racontées par les personnages, la pièce de Wajdi Mouawad est un hymne à l'humanité, que l'on pourrait résumer par cette phrase prononcée par Nawal, « Ne haïr personne, jamais. » La tête dans les étoiles, toujours. Alors, le titre du livre, c'est Incendie, de Wajdi Mouawad. Je peux épeler le prénom et le nom de l'auteur. Wajdi, W-A-J-D-I, Mouawad, M-O-U-A-W-A-D. Actes Sud, Collection Babel.
Voilà, je vais vous parler du dernier roman de Jeanne Benhammer, Otage intime, publié aux éditions Actes Sud. C'est l'histoire d'un photographe de guerre, Étienne, qui a été enlevé par des miliciens dans un pays en guerre et qui va être libéré. À son retour en France, il se réfugie dans son village natal où vit sa mère. Et là, il va essayer de réapprendre à vivre, et ça ne sera pas facile. Car très souvent, lui reviendront à l'esprit les moments difficiles qu'il a vécus quand il était otage. Et il pense aussi souvent aux autres otages qu'il a connus et qui sont toujours détenus. Jeanne Benhammer nous raconte cette renaissance dans une très belle écriture et l'on se laisse captiver par cette histoire, par les réactions d'Étienne et des autres personnages qu'il rencontre, particulièrement sa mère et ses deux amis d'enfance, Enzo, le garçon, et Jofranca, la fille, qui vont l'aider à se reconstruire et à se remettre au travail. Donc pour illustrer le roman, je vais vous lire des extraits assez courts. Le premier extrait est la première page du livre, il est sur le point d'être libéré. Il a de la chance, il est vivant, il rentre. Deux mots qui battent dans ses veines. Je rentre. Depuis qu'il a compris qu'on le libérait vraiment, il s'est enfoui dans ces deux mots. Réfugié là pour tenir et le sang et les os ensemble. Attendre, ne pas se laisser aller, pas encore. L'euphorie déçue, c'est un ravage, il le sait. Il ne peut pas se le permettre, il le sait aussi. Alors il lutte. Comme il a lutté pour ne pas basculer dans la terreur des mois plus tôt, quand des hommes l'ont littéralement arraché de son bord de trottoir dans une ville en folie, ceinturé, poussé vite, fort, dans une voiture, quand toute sa vie est devenue juste un petit caillou qu'on tient serré au fond d'une poche. Il se rappelle. Combien de mois exactement? Depuis, il ne sait plus. Il a su, il a compté, mais là, il ne sait plus rien. Ce matin, on l'a fait sortir de la pièce où il était enfermé. On lui a désentravé les pieds comme chaque matin et chaque soir quand on le conduit, les yeux bandés, à ce trou puant qui tient l'eau de toilette. Mais il n'a pas compté les 18 pas comme d'habitude. 19, 20, 21. Il a cessé de compter, le cœur battant. On l'a conduit, les yeux toujours bandés, jusqu'à un avion. Des mots ont été prononcés en anglais. La seule langue avec laquelle on s'est adressé à lui depuis tout ce temps. Il n'a pas reconnu la voix si singulière de celui qui venait lui parler parfois de leur juste combat. Et puis soudain, il y a eu le mot libre, en français. Pour la première fois, en français, il en aurait pleuré. Le mot et la langue, ensemble, dans sa poitrine, quelque chose éclatait. L'accent était si fort qu'il a eu peur de ne pas avoir bien compris. Il a répété « libre ». On lui a répondu « yes, libre ». Et le mot « France ». Alors il a commencé à se répéter en boucle. La France. Puis deux mots sont venus. Je rentre. Et il s'y est tenu. Dans le deuxième extrait, Jeanne Benhammer décrit Étienne quand il se remet au travail. Quand il se remet au travail, c'est avec une méthode. Il découpe des articles, il annote. Oui, il est au travail à nouveau. Et c'est dans le malheur du monde qu'il puise. C'est comme ça qu'il est à l'œuvre. On ne peut pas rester les mains propres devant le monde. Si on œuvre, où qu'on soit, on se salit les mains. C'est comme ça. Il a accepté. Être vivant, être au monde, c'est ça. Les contemplatifs peuvent rester loin, ailleurs, dans un monde que le chaos n'atteint pas. Lui, il ne peut pas. C'est au cœur des choses vivantes, dans le désarroi, la colère, les bouffées de joie ou d'impuissance qu'il trouve le carburant qui fait vivre. C'est comme ça. Et tant pis pour qui ne peut l'accompagner. Et le dernier extrait qui est très court. Étienne explique les conséquences de son choix d'être photographe de guerre. Je n'ai jamais su prendre soin de qui que ce soit. Je ne sais que prendre des risques pour moi. Rapporter ce que j'ai pu arracher au chaos du monde. Je ne sais faire que ça. Prendre soin, c'est pour les pères de famille, les époux, les engagés du quotidien. Moi, je ne signe que mes photos. La durée des jours tranquilles, je n'ai jamais su la signer. Je ne m'y suis jamais engagé, jamais. Je suis en pointillé, un homme en pointillé, et on prend ça pour de l'héroïsme. Les seuls héros sont ceux qui restent et qui vivent. Voilà donc le dernier roman de Jeanne Benhammer que je vous recommande chaudement. Une dernière information pour vous dire qu'à ce jour, il y a encore 54 journalistes détenu en otage dans le monde. Ça m'émeut de dire ça. Donc, je vous rappelle le titre du roman, Otages intimes. Là, je fais la liaison, car c'est au pluriel. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ce pluriel? Ça sera à chacun d'entre vous d'en trouver l'explication. Je pense en avoir trouvé une, mais je ne vous en dirai pas plus. Et je vous souhaite une bonne lecture.
J'ai tant rêvé de toi. C'est un roman de Olivier et Patrick Poivre d'Arvor, publié aux éditions Albin Michel en 2007. Le roman est dédié à la fille de Patrick Poivre d'Arvor, Solène, décédée à l'âge de 20 ans d'une anorexie. C'est l'histoire d'une jeune fille, Yuki, qui souffre comme Solène d'anorexie, qui est déclenchée par le décès de sa mère. Juste avant de mourir, sa mère lui révèle l'identité de son père, qu'elle n'a jamais connu. Agathe, la mère de Yuki, l'a rencontrée à Prague en août 1968, quand elle couvrait comme journaliste les événements de l'invasion soviétique le 21 août 1968. Elle a vécu une brève histoire d'amour avec cet homme, un poète tchèque. Elle ne l'a plus jamais revu. Yuki, très touchée par le décès de sa mère, sombre dans l'anorexie, fait plusieurs tentatives de suicide, enchaîne des hospitalisations, elle arrête même ses études de doctorat, elle travaille sur une thèse sur Robert Desnos. Elle s'en sort grâce à l'aide de Fred, gynécologue qui s'occupait de sa mère et qui est tombé amoureux d'elle. Il essaie de la ramener à la vie, mais c'est très difficile. Elle rêve de son père, elle est persuadée, s'il connaissait son existence, qu'il s'occuperait d'elle. Elle part à Prague pour le rencontrer. Elle prend un rendez-vous par l'intermédiaire d'un ami écrivain sous prétexte de vouloir parler de Robert Desnos. Parallèlement à l'histoire de Yuki, le lecteur découvre l'histoire de Robert Desnos, le poète français, qui est en fait le deuxième personnage principal de ce roman. Les auteurs nous parlent de ses activités clandestines dans la résistance, de son arrestation, de sa vie de prisonnier dans les différents camps de concentration, de sa mort à Terezín, un camp de concentration au nord de Prague, en Tchécoslovaquie, au début de juin 1945, quand il meurt de typhus. Le destin de Desnos et de Yuki s'entremêle. Sa mère adorait les poèmes de Desnos. Elle a appelé donc sa fille Yuki, c'était le prénom de la femme de Robert Desnos, et ça veut dire la neige rose en japonais. Yuki est accompagnée par sa poésie depuis son enfance. Elle fréquente même l'école Robert Desnos et ses poèmes l'aident au moment difficile de sa vie. Quand elle rencontre son père, donc le poète qui s'appelle Pavel Kampa, elle a 26 ans et nous sommes en 1995. Kampa est un poète très célèbre, c'est une fierté nationale, premier prix Nobel de littérature tchèque. On apprend que dans sa jeunesse, il était infirmier bénévole à Terezín, dans le camp de concentration, et qu'il soignait Robert Desnos, qui l'accompagnait jusqu'à sa mort. La rencontre de Yuki et de son père se passe très mal, elle ne lui dit pas qu'elle était sa fille. Elle découvre, grâce à la première femme de Kampa, que sa gloire littéraire est en fait fondée sur un mensonge. Et la fin du roman est très surprenante. J'ai beaucoup aimé ce roman où, sur le fond des événements historiques, on trouve des destins individuels, des personnages qui sont donc marqués par ces événements historiques. On y trouve aussi les personnages politiques, comme ancien ministre Jack Lang, comme président tchèque Václav Havel, politologue Jacques Rupnik, les écrivains tchèques Václav Jámek ou Petr Král. C'était donc tous ces personnages que Olivier Poivre d'Arvor fréquentait au début des années 90 à Prague, quand il était directeur de l'Institut français. Je vais vous lire un petit extrait qui présente le poète Kampa. Au moment où Agathe, la mère de Yuki, le rencontre à Prague. Kampa était à la poésie tchèque ce que Čapek ou Kafka avaient été au roman. En 1968, il avait à peine 43 ans. Les académiciens suédois étaient sensibles aux écrivains de nations en souffrance. Pavel Kampa faisait un héros idéal. 3 ans plus tard, à la face d'un monde réfrigéré par la guerre entre les deux blocs, il deviendrait le premier prix Nobel de littérature tchécoslovaque. Il avait fait parler de lui très tôt, au lendemain de la guerre, alors qu'il n'avait pas 20 ans. « Le Rimbaud des temps modernes », disait-on. Ses poésies plaisaient aux enfants comme aux plus âgés, aux femmes comme aux hommes, aux riches comme aux pauvres. On les apprenait par cœur dans les écoles du monde entier. Kampa était une gloire nationale, traversant les époques, les régimes, dominant le parti, le château, les syndicats, les unions, les factions. Ses odes à Staline et à Gottwald étaient oubliées. Il en écrirait d'autres, certainement pour les nouveaux dirigeants, lesquels ne manqueraient pas de lui en passer commande. Le Nobel le sanctifierait et le rendrait intouchable. Réformateur, communiste, socialiste à visage humain, dissident, peu lui importait d'évoluer dès lors qu'il traversait les purges, les procès, les chasses aux sorcières. Il était la Tchécoslovaquie à lui seul. Et son nom, après ceux de Dvořák, de Batia, de Beneš ou de Masaryk, faisait le tour de la planète. Les femmes ne lui résistaient guère, pas plus que les bouteilles de Slivovice, les rimes et la musique. Bel homme, grand, fort, une épaisse tignasse, un regard déterminé, des yeux d'un bleu délavé, à fusiller les demoiselles à 100 mètres. Roussalka ne s'en était pas remise, tirée à vue, comme une caille dans les agents. Kampa visait juste. Elle était folle de lui et savait déjà n'être pas seule à jouir de ce privilège. Roussalka, c'était en fait une amie de Agathe qui lui présente ce poète un petit peu plus tard. Donc c'était « J'ai tant rêvé de toi » de Olivier et Patrick Poivre d'Arvor, publié aux éditions Albin Michel en 2007 et réédité en livre de poche en 2009.
Les familles d'Andrea Bajani, traduit de l'italien par Vincent Reynard, aux éditions Gallimard 2013. C'est le troisième roman de cet écrivain italien publié en France. Il raconte l'histoire triste, belle et émouvante du grand-père de Pietro qui a fait la guerre en Russie et que ce qu'il a vu et vécu là-bas l'a tellement traumatisé qu'il a dû aller vivre dans une maison spécialisée. Pietro, en tant que petit garçon, avait peur de cet homme grand et squelettique, et longtemps il ne voulait plus le revoir, malgré que par moments cela lui plaisait quand ce grand-père bizarre l'emmenait jouer au parc. La mère de Pietro voyait son père, mais souvent en cachette de son mari, qui ne l'appréciait pas. Les histoires et le comportement du grand-père ont eu un tel impact sur Pietro que plus tard, quand il a eu une compagne qu'il aimait beaucoup, celle-ci l'a quittée, mais elle est restée en relation avec sa mère. Et le grand-père est mort, et les parents de Pietro ont quitté l'appartement pour un autre dans un immeuble un peu plus loin de l'ancien. Pietro, curieux de savoir qui l'habitait maintenant, est allé voir. Et c'est là qu'il a fait la connaissance d'un vieil homme qui s'appelait Olmo et qui avait également fait la guerre sur le front russe. Il lui a montré des photos, des cartes et a persuadé notre Pietro à aller personnellement en Russie, dans un lieu nommé Russoche. Ce que Pietro a senti le besoin de faire. d'abord Moscou, puis une journée en autocar pour arriver à destination, à Roussoche, dans un petit hôtel. Par chance, une jeune réceptionniste, nommée Olga, a aidé notre voyageur à rencontrer des personnes qui avaient vécu les événements de la guerre, dont lui avait parlé son grand-père et Olmo. Je vais maintenant lire des petits extraits de la fin du livre quand Pietro a rencontré un ancien combattant russe, le grand-père d'Olga. Avant de partir, j'ai tenu la promesse que j'avais faite à Olga d'aller voir la maison de son grand-père à la campagne. Ce n'était guère plus qu'une caisse en bois, avec des portes et des fenêtres, une isba, rien que la steppe devant et derrière, les poules qui entraient et sortaient par un portail en tôle défoncée. Quelqu'un avait peint des numéros dessus. Le grand-père d'Olga est sorti, précédé d'un vol de poules. Il a franchi le portail, la voiture qui s'est arrêtée et ces dernières qui sont apparues telles des majorettes. Puis il est arrivé. Lui, une poule retardataire l'a dépassée et s'est jointe aux autres. Il était là, deux béquilles et une seule jambe, le petit corps trapu d'un paysan, le visage cuit par le soleil et couvert de rides, si nettes qu'on aurait dit des incisions. Il était 9 heures du matin, il y avait de la vodka sur la table, un bol de miel, des œufs durs et une omelette. Le grand-père d'Olga me regardait. Il avait tout préparé pour nous. Olga avait tenu à ce que je fisse sa connaissance. La guerre lui avait pris une jambe, la maison était tout ce qui lui restait. Olga lui avait dit que j'étais italien. Mon grand-père avait fait la guerre, les Italiens et les Russes. Ce qui est fait, est fait. Lui, il ne connaissait que 4 mots qui, dans son esprit, n'en formaient qu'un. Sur la rive opposée du Don, il entendait les soldats les prononcer. Il faisait froid, on tirait, puis cette unique parole composée de 4 mots. Sacré nom de Dieu! Il les a hurlés en levant son verre. Ces mots, reliés, qui à ce moment-là lui donnaient l'impression de porter un toast, moi aussi j'ai levé mon verre au-dessus de la table. Sacré nom de Dieu! Et tous à rire. Olga aussi. Sacré nom de Dieu. Et pour finir, Sashka, sacré nom de Dieu. Elle l'a dit tout bas en murmurant au chat. Après, il n'a plus été question que de boire et manger pendant des heures. Lui qui s'est mis à chanter, il marquait le rythme avec une béquille. Puis, d'un coup, le grand-père d'Olga a cessé de rire, sa bouche s'est fermée, ses yeux sont devenus plus sombres. Olga m'a expliqué que la vodka emportait toujours son allégresse et ses chansons. Et la dernière chose qu'elle lui laissait, c'était cette mélancolie bleu nuit. Elle l'a déposée sur ses épaules et il se voûtait, lui. Il acceptait de se soumettre. Voilà, ça peut paraître un peu triste, mais au fait, le livre n'est pas triste du tout. Il se lit très bien, il y a même des passages amusant et j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était Toutes les familles d'Andrea Bajani qui s'écrit Bajani.
le nom de l'auteur Ambai, A-M-B-A-I. De son vrai nom, C.S. Lakshmi, je ne sais pas ce que signifient ses initiales. C'est une femme qui vit en Inde et qui écrit en tamoul. Elle est née à Coimbatore, au Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, en 1944. Donc l'auteur Ambai, le titre du livre de Haute Lutte, traduit du tamoul par Dominique Vitalios et Krishna Nagaratinam. L'édition originale en Inde est parue en 2007, la traduction française aux éditions Zulma en 2015. Il a donc fallu 8 ans pour que nous connaissions ce livre. Pour que la femme jouisse d'une image positive aux yeux de la société, il fallait qu'elle se consume et se comporte en victime consentante, plutôt que de se révolter et de chercher son plaisir. C'est ainsi que l'une des héroïnes de ce recueil de 4 nouvelles définit la condition féminine en Inde. Dans ce livre, l'auteur, Ambai, nous présente des femmes lettrées, douées pour la poésie, pour la musique, intelligentes, cultivées, sensibles, raffinées, qui refusent de se consumer et de se comporter en victimes consentantes, qui luttent pour vivre, pour avoir le droit d'être elles-mêmes. Dans « Les ailes brisées », la deuxième de ces 4 nouvelles, comme l'indique le titre, ce combat aboutit à la défaite de la femme. Elle réussit dans les 3 autres. Chaya ne supporte plus son mari, Bhaskaran, macho, obèse et radin, dont l'avarice pathologique a même déteint sur elle. Elle est devenue aussi avare que son mari. Voici le début de cette nouvelle, en précisant que le rasam dont il est question à un moment est un bouillon épicé à la tomate et au tamarin. Je n'ai absolument aucune compétence en cuisine, je suis même complètement nul, mais il y a un très intéressant lexique à la fin du livre. Prohibez les grosses bedaines, les poitrines grasses et flasques sur les corps masculins, se dit Chaya. Il fallait des lois. Elle en avait déjà élaboré un certain nombre dans sa tête. Une loi contre le mariage des hommes aux torses lisses et glabres. Une loi pour interdire le baiser aux mâcheurs compulsifs de Bethel, leurs dents virent au rouge des cristaux d'étain écrasés. Une loi pour confisquer leurs bourses aux maris qui en serrent les cordons dès qu'ils voient leur femme poser un regard de convoitise sur un objet qui lui plaît. Et bien d'autres encore. Le rasam est trop chaud. S'il y avait un individu que ces lois, fussent-elles entrées en vigueur, auraient mis à rude épreuve, c'était bien l'homme assis par terre, imposant comme une montagne et transpirant abondamment, qui venait de lui grommeler ce reproche. « Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, » suggéra-t-elle. « Qu'est-ce que tu dis ?» Un chien grognant après une chienne qui passe devant lui le nez en l'air s'exprimerait avec plus de douceur, nota Chaya. « Ama, ça veut dire maman. Ama, Ama, tu m'as servi trop de riz, » gémit Shekhar. « Comment ça, trop ?» s'interposa son père. « Au prix qu'on paie la nourriture, mange ou tu auras une fessée, petit vaurien. » À la vue de son fils, crispant les joues pour se retenir de pleurer, Chaya édicta d'urgence un nouveau décret. Imposer la vasectomie à tous les hommes dépourvus de la gentillesse la plus élémentaire pour les empêcher d'engendrer des enfants. Apprenant que sa sœur Bouma va se fiancer, Chaya va lui rendre visite chez leurs parents. En fait, elle veut s'enfuir. Mais lors de ce voyage, elle découvre qu'elle est enceinte et elle revient chez son mari. Son mari est furieux car cette naissance va entraîner de grosses dépenses. Les femmes des 3 autres nouvelles sortent victorieuses de leur combat. Elles arrivent à vivre la vie dont elles rêvent, la vie à laquelle elles ont droit. Mais c'est au prix parfois de grandes souffrances. Dans la première nouvelle, le manuscrit, Chintamarai découvre le journal de sa mère, Tirumakal. Elle le lit et elle apprend ainsi que 2 hommes ont joué un rôle important dans la vie de sa mère. Le père de celle-ci, donc son grand-père, qui lui a fait découvrir les poètes et qui lui a appris la liberté, et son mari, donc le père de Chintamarai, grand poète mais violent, qui la bat et elle finit par fuir. Les 2 autres nouvelles sont plus lumineuses, plus poétiques aussi. Dans celle qui donne son titre à ce beau recueil de Haute Lutte, Sempakam réussit à faire les études de musique et de chant dont elle rêvait, à devenir une chanteuse reconnue. Son professeur, Aya, qui est un homme, lui donne ce conseil. N'épouse jamais un homme qui voudrait t'empêcher de participer à des concerts. Ton mari devra respecter ton art. Elle épouse Shanmugan, le fils de son professeur, Aya, grand chanteur lui aussi. Ils forment un duo au début, et puis petit à petit, son mari lui interdit de monter sur scène. Alors s'engage entre eux un combat long, acharné, mais feutré, insidieux, que Saint-Pacam finit par gagner deux hautes luttes. La quatrième et dernière nouvelle, La forêt, est la plus complexe, la plus poétique. Shantiru veut quitter son mari, Tirumalai, pour aller vivre dans une forêt. Lui n'est évidemment pas d'accord, et voici ce qu'il dit à son épouse. Et d'ailleurs, pourquoi la forêt ? Comme si la forêt l'attendait pour devenir son refuge. Elle lui faisait l'effet de ces rêveurs qui s'identifient aux personnages des épopées. En outre, même au temps épique, c'était exclusivement les hommes qui se rendaient seuls dans la forêt pour chasser ou pour anéantir des êtres maléfiques. Lorsque les femmes y pénétraient, ce n'était jamais sans leur mari. Sira avait accompagné Rama, exilé sur ordre de son père. Damayanti avait suivi Nala après la perte de son royaume Odé. Les épouses des sages partageaient la vie d'ermite de ces derniers. On ne pouvait rencontrer seules en pleine forêt que des séductrices, telle Menaka, cette nymphe envoyée par les dieux pour briser la méditation d'un ascète. À cette exception près, c'était pour une femme un lieu de perdition. Elle était désorientée par tout ce qui l'entourait, les arbres, les animaux, les fleurs. L'envoyer dans la forêt, c'était la punir, la rendre orpheline, la couper du monde. Pour la garder de tout danger, il fallait un homme à ses côtés. Telle était l'opinion de Tirumalai. Le jour est venu de réécrire nos épopées, avait-elle répondu en souriant. Et elle part. Dans cette forêt, Shantiru fait de nombreuses rencontres. Elle rencontre notamment des femmes qui lui apprennent la vie, qui lui apprennent la vie dans cette forêt. Et elle rencontre aussi Valmiki, poète de l'Antiquité, qui ressuscite exprès pour elle. Valmiki à qui l'on attribue la célèbre épopée intitulée Ramayana. Shantiru entreprend de réécrire cette épopée du point de vue des femmes. L'auteur, Ambai, entrelace avec virtuosité et naturel plusieurs strates narratives. Les retours en arrière, comme dans les trois autres nouvelles. La nouvelle vie de Shantiru, les textes que Shantiru écrit. Les deux Ramayana, l'ancien, le vrai, celui de Valmiki, et puis celui que Shantiru réécrit d'un point de vue féministe. Ambai crée ainsi un univers coloré, chaleureux, d'une intense poésie. Poésie et musique sont d'ailleurs les piliers de ces quatre textes qui nous plongent dans une Inde mystique, poétique, fabuleuse et en même temps très réaliste. Les traducteurs ont d'ailleurs conservé tel quel de très nombreux mots de la langue originale, le tamoul, qui donnent à ces textes une profondeur mystérieuse éclairée par un précieux lexique en fin de volume. Je viens donc de vous présenter le livre de haute lutte de Ambai aux éditions Zulma.
Balzac et la petite tailleuse chinoise, paru chez Gallimard en 2000. Dai Siji, né en Chine en 1954, est l'auteur de ce premier roman, écrit en français et largement autobiographique. Il immigrera en France à l'âge de 30 ans grâce à une bourse d'études. Donc, le narrateur, fils de médecin, et son ami Luo, fils de dentiste, considérés comme des intellectuels bourgeois, sont envoyés en rééducation dans un village de paysans pauvres, illettrés, du nord de la Chine, dans des montagnes quasiment inaccessibles. Ils nous racontent la découverte de la littérature occidentale dans une traduction chinoise, Balzac, Romain Rolland, Dumas. Ce fut pour eux un véritable enchantement, une révélation sur les sentiments, sur un monde de poésie, de raffinement, de rêve, de liberté. Il évoque également la rencontre avec la fille du tailleur ambulant et la découverte de l'amour. Les corvées, la mine, les séances de cinéma oral et des situations semi-tragiques et parfois burlesques. Je vais vous lire quelques passages pour illustrer ce roman qui est excellent, je trouve. De temps en temps, Luo et moi avions raconté quelques films au chef, et il bavait d'en entendre plus. Un jour, il s'informa de la date de la projection mensuelle à la ville de Yongjing.
et décida de nous y envoyer, Luo et moi. 2 jours pour y aller, 2 jours pour le retour. À notre retour au village, une séance sans précédent de cinéma oral eut lieu devant notre maison sur pilotis. Bien sûr, tous les villageois y assistèrent. Le chef était assis au milieu des premiers rangs. Sa longue pipe en bambou dans une main, notre réveil, du phénix terrestre, dans l'autre, pour vérifier la durée de notre prestation. Le trac s'empara de moi et je me vis réduit à exposer mécaniquement le décor de chaque scène. Mais Luo se montra un conteur des génies. Il racontait peu, mais jouait tour à tour chaque personnage, en changeant sa voix et ses gestes. Lorsqu'il termina la séance, juste dans le temps imparti, notre public, heureux, excité, n'en revenait pas. « Le mois prochain, nous déclara le chef avec un sourire autoritaire, je vous enverrai à une autre projection. Vous serez payé la même somme que si vous aviez travaillé dans les champs. » Et il y a la rencontre avec la fille du tailleur. Comme le chemin de retour était très long, nous partîmes vers 3 heures de l'après-midi pour atteindre notre village avant la tombée de la nuit. Sur le sentier, je demandai à Luo, « Elle te plaît, la petite tailleuse ?» Il poursuivit son chemin, tête baissée, sans me répondre tout de suite. « Tu en es tombé amoureux ?» lui demandai-je de nouveau. « Elle n'est pas assez civilisée, du moins pas assez pour moi. » Et un troisième extrait. Il braqua sur moi la lumière de sa torche électrique. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demandai-je. « Suis-moi, on va parler dans le bureau de la sécurité publique de la commune. » « Pourquoi ?» lui demandai-je en allumant la lampe à pétrole d'une main tremblante. « Tu racontes des saloperies réactionnaires. Heureusement pour notre village que je ne dors jamais, que je veille toujours. Je ne vous cacherai pas la vérité. Je suis là depuis minuit. Et je l'ai entendu, toute ton histoire réactionnaire du comte machin. »« Calmez-vous, chef, » intervint Luo. « Ce comte n'est même pas un chinois. Il parle d'Edmond Dantès. »« Je m'en fous. » Un jour, notre révolution triomphera dans le monde entier. Et un comte, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être autre chose qu'un réactionnaire. Attendez, chef, coupa Luo. Vous ne connaissez pas le début de l'histoire. Ce mec-là, avant de se déguiser en noble, c'était un pauvre matelot, une catégorie classée parmi les plus révolutionnaires, selon le petit livre rouge. Ne me fais pas perdre mon temps avec ton baratin à la con, dit le chef. Tu as déjà vu un bon qui voudrait piéger un procureur ? Se disant, il cracha par terre, signe qu'il allait en venir aux mains si je ne bougeais pas. Je viens avec toi, me dit Luo. Non, reste là, occupe-toi de tout, pour le meilleur et pour le pire. Et en prononçant ces mots, je dus faire un effort pour refouler mes larmes. Je vis dans les yeux de Luo qu'il comprenait ce que je voulais dire. Bien cacher les livres au cas où je le trahirai sous la torture. Donc moi j'ai trouvé que c'était un roman étonnant, satirique, plein d'humour. Le ton était juste, sans être larmoyant. C'est un très beau livre que je vous recommande, et c'était Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji.
Je vous présente maintenant La Côte 400 de Sophie d'Ivry, parue aux Allusifs en 2010. Alors, c'est un tout petit roman de 50 pages que j'ai lu en 1h30 ou 2h. Je vous en lis les 10 premières lignes pour vous situer un petit peu l'action. Réveillez-vous. Pourquoi êtes-vous couché là? La bibliothèque n'ouvre que dans 2 heures. Vous n'avez rien à faire ici. C'est le comble. Voilà qu'on enferme les lecteurs dans mon sous-sol. Ils m'auront vraiment tout fait dans cet établissement. Pas la peine de crier, je n'y suis pour rien, moi. Mais je sais qui vous êtes. Vous connaissez les lieux. À force de passer vos journées à traîner ici, ça devait arriver. Vous y êtes resté la nuit. Voilà donc, vous l'avez compris, un lecteur s'est laissé enfermer dans la bibliothèque Et pendant 50 pages, la bibliothécaire, une femme de 50 ans, va s'adresser en un long monologue à cet homme qu'elle ne connaît que de vue et va lui confier des choses qu'elle n'a jamais dites à personne d'autre. Cette femme sans homme cache ses angoisses dans ce métier qu'elle estime discret. Je vais vous lire la page 18-19, les premières confessions de cette femme. J'habite rue Victor Hugo, entre le cimetière et la boucherie Pratier. Je vis seule, je suis tranquille, personne ne vient me déranger. J'ai beau n'être pas très vieille, je sais bien qu'à mon âge, ma carrière est finie, alors j'attends la retraite en essayant de ne pas me faire remarquer. Je lis beaucoup. J'exécute les ordres qui viennent d'en haut. Je dis bonjour poliment au conservateur. Je tiens la place. Je m'ennuie un peu. Oh, de toute façon, les hommes, j'ai tiré un trait dessus. Ici, c'est impossible, impossible. Ce n'est pas tout à fait la campagne, mais voyez-vous, quand on a une âme fine, sensible et cultivée comme moi, cela fait très, très province. Moi, j'ai besoin de grandes choses. Alors les hommes, c'est fini. L'amour, je le trouve dans les livres. Je lis beaucoup, ça me console. On n'est jamais seul quand on vit parmi les livres. Eux, ils m'élèvent. L'important, c'est d'être élevé. C'est pourquoi il m'est particulièrement pénible de travailler au sous-sol. Vous ne trouvez pas qu'il fait sombre ? Les architectes ne pensent jamais à nous, ceux d'en bas. Les architectes ne pensent jamais à rien, de toute façon. Je m'y connais un peu en architecte. J'en vois régulièrement fouiner dans mon rayon. Ceux-là, je ne les aide jamais. Le premier architecte ou étudiant en architecture qui passe, avec ses lunettes ridicules et son carton à dessin, il paie pour les autres. Pas un conseil, pas un sourire, niette. Je suis pour les punitions collectives. Ce n'est que justice. Celui qui a conçu ce sous-sol étouffant m'a définitivement et arbitrairement condamné au cachot. Alors je les traque tous en retour. Je tiens ma vengeance quand je les fais monter et descendre plusieurs fois entre les étages avant de leur donner le bon livre. Quand je les dérange avec mes chariots alors qu'ils essayent de se concentrer sur leur travail. Quand je tente par trois fois d'ouvrir leurs fenêtres mal fichues. Quand j'arrête la climatisation, puis la remets. Donc on voit que cette femme est quand même assez antipathique. Elle n'aime pas les lecteurs qui déclassent les livres, qui volent, qui écornent, qui dérangent. Et puis, alors ça m'a particulièrement émue, moi, parce que moi, je suis bibliothécaire et c'est vrai que je ne me reconnaissais quand même pas du tout dans ce portrait. Et puis, à la page 20, je me suis réconciliée avec elle. Elle nous montre un autre visage, celui d'une femme secrètement amoureuse d'un de ses lecteurs. Alors, le discours va changer et devenir profondément humain, bien plus en accord avec ma propre vision de mon métier. Je vais vous lire un petit passage, tout petit, sur les SDF à la bibliothèque. C'est une situation que je vis des fois à Manosque. L'hiver, c'est toujours un peu spécial. Pendant les mois les plus froids, la bibliothèque se remplit d'une population de crève-la-faim, des SDF, des familles avec de jeunes enfants, des marginaux avec leurs sacs plastiques, une vraie cour des miracles. Vous les voyez un peu gênés, ils ne savent pas quoi faire dans les salles de lecture, mais chez eux, misère, ils gèlent. Or, notre atout quand il fait froid dehors. Ce ne sont pas nos incunables ni nos conférences ce soir. Non, c'est le chauffage, un bon chauffage régulier, confortable, lancé de novembre jusqu'en avril. Le gaz de ville, c'est lui qui attire toute cette misère. Ce ne sont pas vraiment des lecteurs. Ils errent, dans le coin des magazines, puis dans le coin littérature. Ils descendent ici pour ne pas se faire remarquer. Ils font semblant de lire. Ils ne font pas de bruit. Ils cherchent une petite place et souhaitent qu'on les oublie. Parfois, assis dans un fauteuil, ils s'endorment, les pauvres. J'ai beaucoup de tendresse pour eux. Je les appelle les réfugiés du chauffage électrique. Et puis aussi, il y a un autre joli passage. Sur cette fois-ci, là, ça se passe en hiver, et là, c'est l'été, au contraire. Quand je pense que certains maires osent fermer les bibliothèques au mois d'août, tout cela pour économiser les frais de fonctionnement. Quelle barbarie ! Imaginez, dans une ville accablée par la chaleur, quand les magasins sont clos, les piscines bondées, les portefeuilles vides, les salaires insuffisants, vos angoisses tapies dans l'ombre et le goudron tout mou, alors que la maison de la culture pourrait tendre les bras à tous ces enfants perdus dans l'océan de la bêtise urbaine, non, monsieur le maire ferme les portes de la bibliothèque. L'infâme. Qu'est-ce qu'il va faire, le petit vieux, au mois d'août ? Je vais vous le dire. Il va se lever le mardi. Il va prendre le seul bus de la journée. Il va arriver lentement, pas à pas, jusqu'à la porte de la bibliothèque. Et là, alors que depuis la veille, il se voyait déjà passer une douce journée climatisée à feuilleter ses quotidiens préférés, là, comme un coup de poignard dans le dos, comme le coup d'état du 18 Brumaire, mon petit vieux, il verra sur la porte le félon écriteau, fermé jusqu'en septembre. Et après, Durkheim s'étonne qu'il y ait davantage de suicides en été. C'est si triste. Rien n'est plus triste qu'une bibliothèque vide. Je veux dire une bibliothèque ouverte, mais dépeuplée. Cela arrive en toute saison pourtant. On reste alors comme Picsou posé sur son tas d'or. Parce que j'ai beau être un peu dur avec vous, en vérité, que ferions-nous sans les lecteurs ? Certaines de mes collègues en haut, dans leur grand rez-de-chaussée, avec leurs grandes fenêtres et leurs rayons parfaits, elles sont si bien, si parfaitement à leur place, elles, à côté de leur machine à café, qu'elles rêvent à haute voix d'une bibliothèque sans lecteurs. Et son discours va donc devenir complètement contradictoire d'avec le début. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre. Beaucoup de passages sont incisifs et très drôles. Par exemple, je vous lis un dernier petit passage, celui sur les romans de la rentrée littéraire. Page 39. Quand je vois à la rentrée tous ces livres niaiseux qui envahissent les librairies, alors qu'ils ne sont, quelques mois plus tard, plus bons qu'à se vendre au kilo. Tous ces bouquins qui vous sautent dessus par centaines, 99% sont juste bons à envelopper des sardines. Pour les bibliothèques, c'est une calamité. Le pire, ce sont les livres express, les livres d'actualité. Sitôt commandés, sitôt écrits, sitôt imprimés, sitôt télévisés, sitôt achetés, sitôt retirés, sitôt pilonnés. Les éditeurs devraient inscrire à côté du prix la date de péremption, puisque ce sont juste des produits de consommation. Non, vraiment, la rentrée au rayon littérature, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, je vous conseille ce petit livre et puis je voulais quand même vous dire, vous préciser qu'à Manos, que la bibliothèque reste ouverte l'été. Donc, pas de problème pour toutes les personnes qui viennent chercher un petit peu de fraîcheur. Et je voulais aussi vous dire, ah oui, le titre un petit peu mystérieux, la cote 400. Dans notre jargon bibliothéconomique, la cote 400, c'est la classification attribuée aux sciences du langage. Donc, je vous conseille ce petit livre avec lequel vous passerez un très agréable moment. Puis, c'est intéressant par le message que le livre transmet. Donc, il s'agissait de « La cote 400 » de Sophie Divry, paru aux Allusifs.
Donc on va changer complètement de sujet. Le titre de ce livre est tout un programme, Le charme discret de l'intestin, de Giulia Anders, qui est allemande et médecin. Le livre est édité chez Actes Sud. Il contient de nombreuses illustrations réalisées par sa sœur, et ces illustrations, souvent amusantes, nous aident à sa lecture. La première question que l'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi elle a écrit ce livre. L'auteur nous l'explique dans le préambule dont je vous lis maintenant un extrait court. L'objectif que je me suis fixé avec ce livre est le suivant. Je veux ouvrir une porte sur la science et rendre public ce que les scientifiques consignent dans leurs travaux de recherche ou abordent derrière les portes fermées des salles de congrès. Alors que de leur côté, nombre de gens cherchent en vain des réponses, je comprends que beaucoup de patients souffrant de maladies difficiles à vivre au quotidien soient déçus par la médecine. Je n'ai pas de remède miracle à vendre, et même un intestin en bonne santé ne saurait guérir toutes les maladies. En revanche, je peux raconter ce qui se passe dans l'intestin, révéler ses charmes discrets, lever le voile sur ce que la recherche a de nouveau à offrir et expliquer comment nous pouvons exploiter ces connaissances afin d'améliorer notre quotidien. Donc, dans ce livre, l'auteur successivement nous fait faire une visite guidée au sein de notre système digestif et on y apprend pas mal de choses très intéressantes. Puis, dans une deuxième partie, elle présente toujours de façon claire et captivante les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle du deuxième cerveau pour notre bien-être. Et enfin, dans une troisième partie, avec des arguments scientifiques, elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments, ainsi qu'à appliquer certaines règles concrètes en faveur d'une digestion réussie. Pour illustrer ce livre, je vais vous maintenant vous en présenter un seul extrait, parce que je n'ai plus trop de temps. Alors, vous m'excuserez pour cet extrait, pour le vocabulaire, mais je ne fais que lire ce qu'a écrit l'auteur. Dans le titre du chapitre, « L'art du bien chier », en quelques leçons, et pourquoi le sujet a son importance. Après quelques pages d'explication, l'auteur nous explique la bonne façon de faire. Écoutez bien. Il suffit de poser les pieds sur un petit tabouret bas, donc il faut se le procurer si vous n'en avez pas, et se pencher légèrement le buste en avant, c'est très important. Là, voilà, les angles retrouvent leur valeur optimale et l'on peut plus facilement faire ses besoins. Essayez et vous constaterez que c'est efficace. Je l'ai moi-même expérimenté. Voilà, je vais arrêter là, mais en tout cas, je vous conseille fortement ce bouquin qui, en ces périodes où on risque de manger un peu trop, ces périodes de fête, vous aidera à passer de bonnes fêtes. À bientôt.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, nous avons... Nicole vous a présenté
Incendie de Wajdi Mouawad.
Robert.
Otage intime de Jeanne Benhamer.
Blanca.
Je t'en rêvais de toi, de Olivier et Patrick Poivre d'Arvor.
Nelly.
Toutes les familles d'Andrea Bajani.
Jean-Loup.
De Haute Lutte de Hambaï.
Alphonsine.
Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji.
La Côte 400 de Sophie Divry.
Le charme discret de l'intestin de Giulia Anders.
Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que ce soir à 17h à la médiathèque, ma collègue Nathanaël présente présente un livre. Et c'est l'humaniste, le peintre, l'architecte et le cardinal. Et nous partirons à la découverte de Vitruve, qui était un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, grâce au livre de Daniel Barbaro de 1567, qui nous mènera de Venise aux villas palladiennes de la Terra Ferma. Cet ouvrage rare fait partie des collections données par M. Richedo à la médiathèque. Nathanaël fera cette présentation à l'aide de très belles photos. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, si ça vous intéresse, ce soir à 17h à la médiathèque. Le prochain comité de lecture aura lieu le mardi 19 janvier à 18h à la médiathèque et sera suivi le jeudi 21 janvier à 15h sur Fréquence Mistral de notre émission « Des lecteurs sous les toits ». Merci à Nathalie, la technicienne, et à bientôt. Au revoir.